à voix nue. Cette semaine, Camille Jusot rencontre Hubert Reeves. Ce soir, dialogue avec les arbres millénaires.
Bonsoir Hubert Reeves.
Bonsoir Camille.
Après nous avoir parlé tout au long de la semaine de vos voyages cosmiques, votre enfance au Canada, votre carrière scientifique entre les États-Unis, le Canada et l'Europe, votre deuxième carrière, celle de vulgarisateur depuis plus de 50 ans, je vous propose pour commencer ce dernier rendez-vous un petit exercice. Si vous fermez les yeux et que je vous dis malicorne, quelles sont les couleurs, les odeurs, les ressentis que vous avez quand un courant d'air vient caresser votre visage en fin de journée?
Malicorne, c'est un petit village en Bourgogne, dans lequel ma femme et moi, nous avons, c'est surtout elle d'ailleurs, nous avons restauré une vieille grange. Et ma tâche à moi, ça a été de planter des arbres. Parce que depuis toujours, j'avais un rêve, c'était de planter des arbres, mais des arbres qui vivent longtemps. C'est-à-dire que cette idée que je pouvais planter un arbre qui serait encore là dans 3000 ans, je trouvais ça absolument fascinant. Donc, j'ai profité de l'occasion et j'ai planté en particulier des cèdres du Liban. Je suis allé au Liban pour voir les cèdres qui existent encore. Ce sont des arbres qui ont entre 2 et 3 000 ans. Et imaginez, 3 000 ans, c'était Homère. Ça veut dire qu'ils ont été plantés à cette période. Et ça me plaît beaucoup, cette idée d'intervenir dans cette séquence. Moi, je suis plus là depuis longtemps, mais ça me plaît beaucoup. Et donc, la première chose que je fais quand je vais à Malicorne, c'est de faire le tour de ces arbres. Il y en a beaucoup. Il y a des séquoias, il y a des cèdres du Liban, il y a des ginkgo biloba, il y a des tilleuls, il y a des ormes, tous des arbres qui peuvent, dans certains cas, dépasser 1000 ans.
C'est votre forêt millénaire, c'est celle-là?
C'est la forêt millénaire, oui, c'est ça.
Est-ce que ça vous inspire, cette longévité aussi de la nature, la résilience?
Oui, exactement. J'aime beaucoup, on a mis des bancs parmi ces arbres, et j'aime beaucoup aller m'asseoir sur les bancs et sentir leur présence. Ça, c'est l'avantage de mettre des bancs. Si vous ne faites que marcher, vous ne pouvez pas atteindre ce niveau de concentration, de présence. Tandis que là, on en a mis, et puis c'est une de mes occupations favorites, c'est de me sentir, les Japonais appellent ça des bains d'arbres, c'est de se sentir au milieu de ces êtres-là, ces êtres que j'ai plantés moi-même, avec des petites, quelquefois des graines, j'ai semé des séquoias, de les voir grandir. Maintenant, je ne fais plus le tour avec mes deux bras, et c'est ça. C'est un peu comme une sorte de nouvelle famille. J'aime beaucoup ce contact avec les arbres, qui est un contact muet, évidemment, mais on sent qu'il passe quelque chose, surtout si on est attaché, surtout si on les a plantés soi-même. Et quand je vois des oiseaux qui viennent nicher dans ces arbres, j'ai envie de leur dire, mais je ne pourrais pas leur dire, c'est moi qui ai planté cet arbre. Bon, voilà, ça c'est de la fantaisie, mais c'est la fantaisie qui m'occupe à Malicorne, surtout les arbres, mais aussi à cette période de l'année, les fleurs sauvages qui commencent à apparaître maintenant et que je découvre chaque année. Pour moi, c'est un des grands plaisirs de dire, tiens, voilà, telle fleur est arrivée, et ainsi de suite. C'est comme une symphonie qui se déroule avec les premières fleurs, les deuxièmes, les troisièmes, tout ça.
Chaque saison a ses spécificités, d'ailleurs, que vous aimez.
Oui, absolument. Chaque saison a sa spécificité. C'est vrai aussi pour les oiseaux. Quand on voit que les hirondelles viennent d'arriver, ou que les rouges-gorges ou autres, etc. C'est-à-dire vivre dans la nature, se sentir participer à la nature, c'est quelque chose qui me plaît énormément.
Et dans l'hiver, par exemple, qu'est-ce que vous aimez?
Dans l'hiver, le vert des mousses. Dans les bois, sur les vieilles souches, les mousses souvent deviennent tellement lumineuses qu'on dirait qu'elles émettent elles-mêmes de la lumière. C'est quelque chose que je vais voir dans la forêt. Ça illumine la forêt.
Vous marchez beaucoup aussi, Hubert?
Je marche beaucoup, j'aime beaucoup marcher, effectivement. J'aime beaucoup marcher. J'aime marcher seul, j'aime marcher avec des amis. Mais marcher avec des amis, c'est différent. Vous n'avez pas la même attention au monde. Vous devisez agréablement, vous causez. Vous n'avez pas la même attention à ce qui vous entoure. Il n'y a pas cette espèce de présence des arbres qui est une présence muette, mais très, très intense.
Depuis les années 70 que vous allez dans cette maison à Malicorne, que vous avez avec votre femme Camille, sentez-vous que la diversité du monde végétal, du monde animal aussi, est moins importante? Est-ce que vous voyez moins de papillons? Est-ce que vous voyez moins de fleurs chaque année?
Oui, ça c'est ma grande tristesse. C'est de voir comment je compare mes souvenirs des premiers temps où il y avait des papillons partout, autour des fleurs, je pouvais dénombrer jusqu'à 10 variétés de papillons différents. Maintenant, quand j'en ai une ou deux, c'est à peu près tout ce que je peux faire. Les fleurs sauvages qui disparaissent. Il y a comme une espèce de nostalgie qui s'installe, qui dit, qu'est-ce qui arrivera à ce terrain? Comment sera ce terrain dans 100 ans? Est-ce que ce sera des centres d'achat? Est-ce que, vous voyez, il y a une nostalgie de la perte de ce côté de nature authentique face à tout ce qui se passe, les centres d'achat et tout ça. Ça, pour moi, c'est comme si je m'empressais de les goûter, comme si je me disais, ils sont fragiles. Et c'est vrai qu'ils sont fragiles. On a vu beaucoup de jardins disparaître, d'oiseaux, etc. On espère, c'est un peu ça qui me motive pour m'occuper d'environnement. C'est de dire, je voudrais bien que mes enfants et mes petits-enfants voient tout ça, mais je ne peux pas le garantir quand je vois le rythme auquel certaines choses se détériorent. Il y a des choses qui s'améliorent aussi. Je ne pense pas que nous soyons dans une situation désespérée. Il y a de plus en plus de mouvements qui sont faits et j'essaie de participer le plus possible pour encourager les jeunes gens, les enfants surtout. À côté de la maison, il y a une colonie de vacances de la ville de Nanterre et tous les ans, je vais faire des causeries, j'appellerai pas ça des conférences. Causeries, c'est des petits, ils ont 12-15 ans. Et justement, dans le but de les éveiller, à voir une fleur sauvage que vous pouvez passer votre vie à ne pas voir si vous ne l'avez jamais remarqué, si personne ne vous l'a signalé. Et ce livre, j'ai écrit un livre qui s'appelle « J'ai vu une fleur sauvage ». Et ce livre vient du fait que j'ai un jour vu un haïku. Un haïku, c'est un petit poème japonais très court. Et ce haïku disait « J'ai vu une fleur sauvage. Quand j'ai su son nom, je l'ai trouvée plus belle. » Et c'est ça qui m'a charmé. Donc, avec une amie photographe, on a fait ce livre dans lequel on a répertorié une cinquantaine de fleurs différentes qui apparaissent à leurs heures et que si personne ne vous les montre, penche-toi, regarde, mets-toi à genoux pour regarder. Bon, on voit les marguerites, on voit plusieurs autres fleurs, mais il y en a toute une collection que si on ne fait pas l'effort d'aller le prendre, le regarder avec une loupe, c'est des merveilles incroyables. On va à l'autre bout du monde pour voir des choses merveilleuses et on marche, on passe sur des fleurs comme ça qui sont simplement dans la pelouse.
Hubert Reeves, à quel moment vous entendez pour la première fois le mot réchauffement climatique? Avez-vous rencontré peut-être Claude Lorius qui a été un des glaciologues qui a permis de mettre en évidence des courbes du climat à partir de carottes glaciaires?
Absolument, absolument. J'ai commencé, c'est aux États-Unis, j'enseignais à des cours sur les atmosphères à des étudiants et un de nos collègues et professeurs était très très inquiet. Ce qui l'inquiétait, ça c'était après la guerre, c'était les années 70-60, il était inquiet de voir comme on entrait dans une ère très faste, que le nombre de voitures augmentait à une vitesse fantastique. Et ce garçon disait, ces voitures, ils émettent du gaz carbonique, et ce gaz carbonique peut réchauffer l'atmosphère, ce qui était connu. Mais nous, la plupart de ses collègues, on pensait qu'il exagérait, parce qu'on disait, la Terre, c'est quand même gros. Vous pensez que les voitures peuvent avoir une influence. Eh bien, avec le temps, il s'est avéré qu'il avait raison. Deux éléments sur lesquels il a insisté, qui étaient la planète se réchauffe et c'est l'activité humaine qui la réchauffe. Parce que ça, c'était pas évident au début. Au début, on disait, il y a eu des périodes chaudes, des périodes froides. C'est pas possible que ce soit l'humanité qui ait affecté tout ça. Eh bien, avec le temps, les Nations Unies ont nommé ce comité, ce GIEC, pour répondre à la question suivante. Est-ce que la Terre se réchauffe? La réponse, oui. Est-ce que c'est dû à l'activité humaine? Ben là, c'était beaucoup plus difficile. Et il y a un comité de 3000 chercheurs, les meilleurs dans le monde, qui ont étudié et qui continuent à étudier depuis ce temps-là, qui font des rapports tous les 2 ans, et les rapports vont toujours dans le même sens, et dans le sens pire, si on peut dire. Aujourd'hui, on admet qu'à 95% le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine en très grande majorité. Et c'est autour de cette ambiance-là que j'ai commencé à m'inquiéter et dire peut-être qu'il faudrait parler non seulement du Soleil et des galaxies, mais il faudrait aussi parler de ce danger. Et au début, ce qui était très déprimant, c'est que personne n'y croyait. Personne ne voulait y croire. Il y a eu cette résistance. Souvent, on ne veut pas admettre que ça va mal. Vous savez, ce qu'on dit comme comparaison, on dit que si vous avez la fièvre, la meilleure chose à faire, c'est de casser le thermomètre. Ben, voilà ce qui se faisait, mais c'est devenu de plus en plus important. Et à cette période, j'avais des enfants, et je m'inquiétais, je me disais, en regardant ces courbes, quel sera l'aspect de la planète dans 30 ans et dans 50 ans? Et depuis ce temps, il y a des études qui sont faites continuellement, et comme vous savez, aujourd'hui, la situation est assez critique. Je dirais, nous sommes dans une situation de conflit entre deux forces opposées et qui prennent tous les deux de la puissance. Il y a une phase de détérioration, puis on vient d'avoir les chiffres là sur le gaz carbonique l'année dernière. Il n'est pas du tout en train de ralentir, il est plutôt en train d'augmenter. Après tout ce qui a été promis à la COP21, quand on fait le bilan, il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a une force de restauration qui, elle, vient surtout de beaucoup des enfants. Je suis souvent avec des enfants, et des enfants sont inquiets. Ils ont une angoisse de cela, et ils essaient de faire quelque chose, et personne ne sait qui va l'emporter. Personne ne sait si dans 30 ans ou dans 50 ans, ça pourrait aller beaucoup mieux. Il y a des raisons de le penser. Il y a beaucoup d'éveil. Ou bien pire, quand on regarde la déforestation ou les phénomènes qui continuent et qui ne sont pas contrôlés par les citoyens, mais qui sont contrôlés par des compagnies money. Et on espère justement qu'on va réussir à ce qu'ils se tempère. Et ça arrive dans beaucoup de cas. Et maintenant, il y a des mouvements qu'on appelle de contre-investissement, dans lesquels les universités qui avaient déposé des fonds de pension dans des compagnies qui creusent pour le pétrole et le charbon retirent leurs argent de ces... L'attaque se fait maintenant sur le plan financier. Bon, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, mais c'est pas évidemment mauvais. Ça pourrait s'arranger, mais ce sera une très dure bataille et on ne retrouvera jamais la Terre comme on l'a connue, disons, il y a 2 siècles. On aura une Terre abîmée, avariée, mais pas évidemment invivable.
Comment était Hubert Reeves, comment était Théodore Monod que vous avez rencontré,
oui,
qui était le président de l'ancienne Ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs, dont vous êtes l'actuel président?
C'était, comment écrire, un homme volontaire, un homme de caractère, un homme de grand caractère qui avait pris au sérieux et qui se battait pour cette cause et qui a beaucoup fait d'ailleurs pour aider à cette cause, mais à une période où c'était du romantisme, c'était pas grave. S'il vivait maintenant, je ne sais pas comment il agirait, il serait certainement beaucoup plus entraîné dans ce but. Moi, je trouvais que c'était un homme que j'aimais beaucoup, cet homme qui avait cette volonté, ce caractère, ce tempérament de petit enfant qui tape du pied. C'est ce que j'aimais chez lui. Je l'ai rencontré dans les années 90 et en fait, je l'ai rencontré sur un camion. Nous étions tous les deux, il y avait une marche qui allait de, je ne sais pas, de Vincennes à... Et on nous avait demandé de monter sur un camion et d'haranguer la foule, comme il se doit dans ces bonnes circonstances. Bon, il y avait 3-4 personnes autour du camion. Ça n'avait rien à voir avec ce que déclenchent aujourd'hui les gilets jaunes. Je crois que c'est bien que les gilets jaunes aient ce rôle, mais ça aurait été bien si à cette période où les dangers n'étaient pas encore aussi graves, plus on attend, plus ça sera difficile. Donc, qu'on n'ait pas commencé plus tôt, c'est une chose qu'on peut regretter. Il faut, à des moments donnés, faire des gestes précis. Et ces gestes, par exemple, c'est en rapport avec le pétrole, le charbon et tout ça qu'il faut absolument enlever de notre menu, si on peut dire, parce que la température, le réchauffement climatique est maintenant avéré et hors de tout doute raisonnable.
Qu'est-ce qui vous décide, Hubert Reeves, à rejoindre l'association désormais aujourd'hui nommée Humanité et Biodiversité?
Alors, au début, c'était autour des années 90. J'étais simplement un adhérent. Mais j'avais envie de faire plus. Je me disais, oui, c'est bien de payer sa cotisation, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, Monsieur Monod est mort. Et les membres de cette association, dont Mme Nelly Boutineau, m'ont demandé si je prendrais la tête. Et je me suis dit, à la tête d'une association comme ça, il faut quelqu'un de connu. On ne peut pas mettre X, Y, Z. Donc ça me désignait en un certain sens. Donc j'ai accepté. Je suis resté pendant 15 ans. Maintenant, je suis plus président, mais président d'honneur.
Vous avez souhaité que le nom change.
Change, oui. J'ai souhaité que le nom change parce que le nom ancien, c'était le Rassemblement des opposants à la chasse. Et moi, j'aimais pas ce titre. Parce que d'abord, je suis pas un opposant systématique à la chasse. Je pense que la chasse peut jouer des rôles utiles. Pour moi, les chasseurs, c'est comme des pompiers. On fait appel à eux quand ça s'impose. Je ne suis pas un opposant, mais je suis opposant à la chasse pour le plaisir, à la chasse à court, à la chasse comme divertissement. Il y a là une sorte d'inhumanité. Il n'importe que nous traitions bien les animaux et les tuer pour le plaisir, ça ne me paraît pas digne d'un être humain. Ça, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas qu'il reste le mot « opposant ». Et je m'opposais à ce qu'on mette le mot « opposant », parce que c'est négatif, c'est pas dynamique. Un mouvement des opposants, vous n'allez pas entraîner les gens. Or, il s'agissait d'entraîner les gens, et surtout les enfants, parce que c'est d'eux que ça regarde. Donc, on a eu de longs débats pour trouver ce titre qui a été adopté, « Humanité et biodiversité », qui met bien en évidence le fait qu'il ne s'agit pas seulement des animaux, il s'agit aussi des humains. Il s'agit de savoir que quand on élimine les vers de terre, on menace les êtres humains. Quand on élimine les abeilles, c'est-à-dire que nous avons parti pris tous ensemble. Nous allons survivre, nous allons garder la planète habitable si on tient compte aussi bien des animaux, des insectes que des humains. Et dans beaucoup de cas, il y a eu des cas où on a chassé des indigènes de leur territoire pour en faire des parcs nationaux. Et c'était une très mauvaise idée parce que ces indigènes-là étaient ceux qui étaient le plus aptes à s'occuper de ces territoires, évidemment, parce qu'ils habitent là. Par exemple, au Galapagos, dernièrement, il y a eu une chasse aux chèvres. Pourquoi? Parce que les pirates en particulier, les Galapagos, ce sont des îles qui sont au large de l'Amérique du Sud, les îles les plus vierges qui existent, où les animaux n'ont pas peur des humains. Ça, si vous avez la chance d'aller aux Galapagos, vous allez voir des animaux qui n'ont jamais rencontré les humains. Donc, vous pouvez caresser les oiseaux. C'est tout à fait étonnant. Mais il y avait dans certaines de ces îles, il y en a des milliers d'îles, il y avait des chèvres qui avaient été déposées et qui étaient en train de... parce que les chèvres, ça bouffe tout, hein, les racines, les petits animaux et tout. Donc, il y a eu cette idée de dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tue les chèvres? Mais non, on tue pas les animaux. La sensibilité humaine est là. Vous n'aimez pas l'idée qu'on part en hélicoptère pour tuer des chèvres. Mais si vous savez que c'est le prix à payer pour que des espèces nombreuses, mais pas protégées parce qu'ils n'ont jamais appris à se protéger, survivent, ben, c'est une discussion, hein. Là, il peut y avoir des opposants, mais c'est pas clair. Ce que vous avez à faire n'est pas clair. Il y a beaucoup de cas comme ça. La biodiversité, la conservation de la biodiversité pose souvent des problèmes de ce genre. En pratique, en théorie, on est tous d'accord. Il faut sauver la vie, etc. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait dans un cas particulier? Ça demande et ça se crée maintenant. Il y a maintenant ici une agence nationale pour la biodiversité. Et le but de cette agence, c'est justement de toucher à ces points précis. Par exemple, on essaie de faire éliminer les mots, parce que les mots ont un impact important. Quand on parle d'animaux nuisibles, déjà, on les condamne. Parce qu'on dit, ils sont nuisibles. Nuisibles à qui? À nous, les humains. On se place au-dessus de tout et on dit, on faut les éliminer. Quand on dit les mauvaises herbes, on dit, il y a des herbes qui sont bonnes et des herbes qui sont mauvaises. C'est pas le cas. Les herbes, elles sont des herbes. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Si vous voulez faire un jardin, ce n'est pas intéressant d'y mettre des pissenlits, par exemple. On peut dire que les pissenlits sont indésirables. Vous voyez, c'est avoir un comportement rationnel. Chaque fois qu'on décide de faire quelque chose, d'étudier la situation pour voir si c'était vraiment la chose à faire.
C'est pourquoi Hubert Reeves, malgré un triste constat sur l'état de la planète, vous restez optimiste et vous parlez souvent du réveil vert.
Oui, oui.
Qu'est-ce que c'est que le réveil vert?
J'aime bien le mot dynamisme. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est plutôt une attitude. C'est pas de décider de faire ceci ou cela, c'est de prendre l'attitude qu'on sait que la Terre est menacée, que la vie pourrait disparaître, et que cela soit présent à tous les niveaux, que tous les projets qui se font aujourd'hui d'autoroutes ou de choses semblables tiennent compte de cette dimension de que la vie demeure habitable, que la Terre demeure habitable. Et dans le cadre de la Bible, comme dans le cadre de la philosophie jusqu'ici, les animaux ne comptent pas beaucoup. Les animaux sont au service de l'homme. Les animaux, c'est fait pour être mangé, c'est fait pour être attelé. C'est pas faux, mais on doit aussi avoir intégré la vie des animaux dans la synthèse que l'on fait avec l'ensemble de la vie sur la Terre. C'est ça qui n'a pas été fait, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ces immenses élevages de vaches et de taureaux qui deviennent des véritables machines. Les animaux sont considérés comme un produit marchandisable. Maintenant, on réfléchit à comment traiter les animaux. Le mot écologique, il n'a pas plus d'une vingtaine d'années. Cette découverte du fait que si nous ne vivons pas de façon harmonieuse avec la nature, nous périrons. Mais c'était même pas vrai il y a 50 ans. On ne savait pas.
Et Hubert Reeves, l'espoir, justement, il peut venir donc des jeunes générations, vous l'avez
beaucoup dit.
Qu'est-ce que vous diriez à nos jeunes auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui?
Je donnerais d'abord un conseil aux parents. Et le conseil aux parents, c'est d'amener les enfants petits dans la campagne et de leur montrer que vous appréciez la nature, que la nature est importante. Ça, je pense que c'est l'élément le plus important. Ce que les parents aiment, révèrent, les enfants sont sensibles. C'est pas nécessaire de leur faire des discours, c'est pas nécessaire de leur... C'est quelque chose qui se passe dans l'affect. C'est que les enfants soient au courant du fait que les animaux sont sensibles, que nous avons été cruel envers eux et qu'il faut que ça change. Je pense à ce niveau-là que, et ça se fait aussi dans les classes maternelles. Dans les classes maternelles, maintenant, il y a de plus en plus. C'est quelque chose à développer, c'est toujours le système général, humaniser l'humanité. C'est-à-dire qu'elle vive en harmonie avec la nature, sachant que si elle ne le fait pas, elle disparaîtra. Oui, c'est ça qui est nouveau. Au temps de Louis XIV, personne n'aurait jamais dit des choses comme ça. Ça n'existait pas. Au temps des Romains, la même chose. Les bêtes sauvages, il fallait les éliminer. C'était même un objectif. Il fallait tuer les bêtes sauvages, ben, parce que c'est dangereux, évidemment, si vous allez dans la forêt, vous attrapez un ours ou quelque chose. Donc ça, ce sont les impératifs qui étaient présents dans le vocabulaire. C'est surtout une question de vocabulaire, question de morale, de moralité aussi. C'est de dire la vie, c'est quelque chose qu'on doit sauver, qu'on doit respecter, à nos risques propres. Et cet respect de la nature peut être insufflé par les parents, pas par des discours, les grands-parents, pas par des discours, surtout pas, mais surtout par l'affect. C'est-à-dire, les parents montrent, quand ils voient un petit écureuil, ben regarde, c'est merveilleux. S'ils prennent un caillou et qu'ils le lancent sur l'écureuil, c'est l'inverse.
Vous emmenez vos petits-enfants vous-même à Malicorne, regarder
oui,
cette fleur?
Oui, on fait souvent des promenades. Et l'été, on va en montagne, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, avec des amis qui connaissent bien la nature. On fait des tournées comme ça. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut que ça passe.
Merci beaucoup, Hubert Reeves, de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine pour explorer le ciel et la terre à travers vos yeux bleu-azur, comme le ciel, comme la mer. Et nous pouvons peut-être nous quitter sur quelques lignes du poème de Paul Valéry.
Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr.
Merci, Hubert Reeves. Au revoir.
Au revoir et merci à vous.
Fin de cette rencontre de Camille Jusot avec Hubert Reeves. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son François Rivalan, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.